Chapitre 3. Le coup de ciseau. « Que dois-je faire ?» répéta Thérèse avec insistance. « Donnez-moi un conseil, vous êtes tellement plus avisé que moi, Galimard. »« Comme je ne suis plus Galimard et que vous n'êtes plus le maire, » répondit la masseuse en passant affectueusement son bras autour du cou de sa visiteuse sanglotante, « je serai Jeanne pour vous et vous, Thérèse, pour moi. » C'est un nouveau chapitre qui commence. Allons, Thérèse, du courage. Comme je vois les choses, le plus pressé n'est pas de courir après M. Coombe, c'est de retrouver votre acte de mariage. De deux choses l'une, ou bien votre mari est mort et le papier a disparu avec lui, ou bien il est vivant et alors il néglige exprès de vous mettre en possession de l'acte. Mais pourquoi? Dans quel but? S'écria Thérèse en s'efforçant de retenir ses larmes. Ah, mon pauvre petit oison, vous n'avez pas encore compris l'Angleterre. Ici, on met le sceau d'un mariage, régulier ou non, sur une liaison, laquelle, en France, resterait une liaison sans mariage. C'est le puritanisme qui veut ça, la respectabilité, comme ils disent, c'est la reine Victoria. Quand cette vieille dame aura disparu, les mœurs changeront, c'est à prévoir. En attendant, quelle sécurité a-t-on dans un pays où un homme peut se marier 3-4 fois sous 4 noms différents? Mon mari à moi vous dira que cet homme risque les travaux forcés. N'empêche qu'avant la cérémonie, j'ai voulu voir de mes yeux une copie officielle de l'acte de naissance de mon beau ténébreux. Donc je suis sûre qu'il est Monsieur Black et moi Madame Black par conséquent. Ah, que ne vous ai-je consulté avant d'aller chez le registrar? Gémit Thérèse. Oui, assurément, c'est ce registrar à présent qu'il faut retrouver. Il faut charger une agence de cette recherche. Ça pourra coûter gros. Vous êtes sans doute pauvre comme Job, interrogea la positive commerçante. Pas tout à fait, non. Madame Wickert me donne 50 livres par an. Je vais toucher après-demain mon premier trimestre. Ça doit vous faire 12 livres 10 shillings, comme je calcule. De quoi avez-vous besoin en attendant le prochain trimestre? Pas de grand-chose, une paire de bottines. Et puis, je voudrais dégager mon col de fourrure et un autre effet au mont-de-piété. Écoutez, Thérèse, je n'ai pas beaucoup de capital disponible. Envoyez-moi 8 livres et si ça ne suffit pas, je vous avancerai ce qu'il faudra en attendant. Ah, fit Thérèse, vous êtes un ange! Je serai encore plus ange que vous n'osez le demander. Je ne dirai rien à Black. Nous avons gardé domicile à la pension Stephen, une grande chambre à deux. Je rentre le soir, quand je ne suis pas retenue ici jusqu'après minuit par ma fabrication de pommade. Les deux bouilloires sont questionneuses. Si Black savait quelque chose, ça lui serait vite arraché. Brave garçon si on veut, mais comme vous, il n'a pas de défense. Votre secret est entre nous deux. Je vais m'informer d'une bonne agence, même honorable si possible. Je vous tiendrai au courant. » Thérèse tirait sa montre, subitement alarmée. Elle avait oublié la petite Gladys. « Il faut que je sois à 6 heures à Portman Square, » s'exclama-t-elle. « Vous y serez même sans courir. Seulement, pas avec cette figure marbrée de larmes, ses yeux gonflés. J'ai là une lotion rafraîchissante. » « Passez, madame, dans mon petit salon, je vais vous refaire une beauté. Hier, j'en ai refait 8, à 1/2 guinée la séance, sans compter les flacons qu'on a emportés. Ôtez-moi ce chapeau, il vous sied d'ailleurs mal. Le noir ne vous va pas du tout. »« Ah, ce que ça m'est égal à présent !» murmura Thérèse. « On voit que vous n'êtes pas française. Jamais une Française ne renonce à plaire, eût-elle les deux pieds dans la tombe. » Sous la froide burée odorante du vaporisateur, Thérèse sentit ses joues se rafraîchir. Elle accepta un nuage de poudre, une goutte précieuse de violette dans son mouchoir, des compliments au sujet de ses cheveux, et puis l'assurance de Jeanne, parole d'honneur française, qu'on retrouverait le registrar, puisque le mot « impossible » n'est pas français. « Jeanne, Jeanne, comment vous remercierai-je » fit Thérèse en embrassant cette secourable amie. 15 jours plus tard, elle repassait à Bond Street entre 4 et 5 l'heure morte. Elle fut accueillie par un hochement de tête et ce geste de deux bras accablés qui signifie en français « rien à faire ». Venez vous asseoir dans ma cabine. Surtout, ne vous évanouissez pas. L'agence a mis sur pied un de ses bons détectives. Il a fait la tournée de tous les bureaux de mariage par licence. Pas trace nulle part, donc mariage cum le maire. J'avais donné vos indications, mais elles sont vagues. Une rue dans le brouillard, un petit perron, un couloir. Que peut-on faire avec ça dans le dédale de Londres ? Thérèse courbait la tête, ses mains se crispaient. Elle ne pleurait pas. Il est des détresses qui sèchent la source des larmes. Elle dit seulement « C'est fini, ma vie est finie !» Jeanne la prit aux épaules, la secoua doucement. « Oui, c'est un coup, pauvre Thérèse, mais dans un an, vous aurez pris le dessus. »« Il faudrait savoir pourtant ce que je suis, » prononça Thérèse d'un air un peu égaré. « Suis-je fille, ou mariée, ou veuve ?»« Je suis veuve. Pierre est mort. Je n'accepte pas cette enquête. Il faut la recommencer. On doit trouver ce registraire. Puisque je vous dis que j'ai signé, je le sais peut-être. Mais si Pierre était dans un hôpital, très malade, il reviendrait à moi, il m'écrirait du moins. J'attends, j'espère encore. » 15 jours plus tard, Thérèse amena de nouveau la petite Gladys chez sa tante de Portman Square, puis elle se hâta de prendre un des omnibus de la cité. Elle n'avait pas trop de temps pour ses courses. Elle se rendit d'abord au Mont-de-Piété, réclama sa fourrure, qui avait été fort bien soignée, puis l'anneau qu'on avait mêlé et confondu avec une poignée d'autres dans un casier de coffre-fort. « Cherchez le vôtre, » dit l'employé en poussant devant elle une sébile pleine de ses pauvres gages de fidélité conjugale, abandonnés-là, peut-être avec la foi dont ils étaient le symbole. L'alliance que Pierre avait mise au doigt de Thérèse ne portait aucune marque gravée, rien qui pût la distinguer des autres. Embarrassée, elle les examinait sous l'œil défiant qui surveillait tous ses gestes. « J'y renonce, » fit-elle en repoussant la sébile. « Alors, je dois vous prévenir que votre anneau sera vendu dès l'échéance des délais légaux. »« Très bien, oui, cela m'est égal. Peut-être que je reviendrai dans quelque temps. » En sortant, elle se disait « Si Pierre reparaît, il faudra que je dégage cet anneau. Autrement, que penserait-il de moi ?» Elle se dirigeait à pied vers Holborn, vers le bureau de poste restante, où elle n'était pas venue depuis assez longtemps. À peine avait-elle fini d'indiquer TL3333 qu'une lettre glissait vers elle sur la tablette polie du guichet. Elle posa sa main dessus et devint tout à coup si pâle que le bon garçon, qui tant de fois avait eu l'air de se moquer d'elle, s'alarma et dit « Voulez-vous entrer, boire un peu d'eau ?» Thérèse secoua la tête, prit la lettre avec ses doigts tremblants, sortit chancelante. Elle chercha des yeux un banc où s'asseoir, n'en vit pas, se laissa tomber sur le mur bas qui fermait une cour. De loin, un honnête policeman la suivait de son regard à la fois protecteur et soupçonneux. Thérèse n'aurait pu se résoudre à déchirer l'enveloppe que Pierre avait touchée, où il avait peut-être mis un baiser pour elle. De sa grosse torsade de cheveux, elle tira une épingle d'écaille, son seul luxe. Elle la glissa sous l'épaisse enveloppe qu'elle fendit à petits coups. L'épingle fragile se cassa en route. Machinalement, Thérèse mit les deux morceaux dans son petit sac. Puis, avec une lenteur étrange de ses doigts qui se glaçaient, elle acheva d'ouvrir l'enveloppe, y chercha la feuille pliée, la déplia. Un billet de banque tomba sur ses genoux, puis s'envola sous un souffle de vent jusqu'au bord du trottoir. Le policeman vigilant fit 10 pas très longs, ramassa le billet, le tendit à Thérèse. « 100 livres, prononça-t-il, c'est du papier qui vaut cher. »« 100 livres, prononça-t-il, c'est du papier qui vaut cher. » Thérèse sortit d'une sorte de torpeur et rassembla ses esprits. Elle prit dans sa bourse une demi-couronne qu'elle tendit à l'agent avec un merci. Cachant le billet dans son sac, elle essaya de fixer ses yeux sur la lettre, tandis que les battements de son cœur faisaient un bruit de tambour dans sa tête. Pendant une grande minute, elle se retint de lire. L'épingle s'était cassée, c'était un mauvais signe. Pas de date, pas d'adresse, toujours le mystère. pas de nom, ni celui de Thérèse, ni celui de Pierre. Je vous ai fait de très grands ennuis. Pardonnez-moi et oubliez. Des impossibilités nous séparent. Retournez dans votre pays, refaites votre vie. Trouvez inclus l'argent du voyage. » Il écrivait en français pour mieux se masquer encore, pensa-t-elle. C'était fini. Ah, comme elle aurait préféré qu'il fût mort! Maintenant, elle ne pouvait plus que le mépriser et le haïr. Un instinct de pauvre créature blessée et presque agonisante la poussa vers son seul refuge. Elle fit signe à un Ransom et lui donna l'adresse de Jeanne. Quand elle entra dans le premier salon, elle vit la masseuse occupée avec une cliente. Alors, d'un pas de somnambule, elle traversa le second salon, ouvrit la porte de l'étroite cabine où elle s'effondra, à peine consciente, évanouie à moitié. Madame Black la rejoignit au bout de 10 minutes. Thérèse lui tendit la lettre sans pouvoir prononcer un mot. « De grands ennuis, tiens, tiens !» commenta Jeanne entre ses dents. « Pour ce monsieur, ce sont des ennuis simplement. Moi, j'appelle ça un crime. Thérèse, ma pauvre petite, je ne trouve rien à vous dire. Tâchez de vous ressaisir. Non, ne claquez pas des dents comme ça. Je vais vous faire respirer un peu d'éther. Allons, allons, calmez-vous. Cet homme est un infâme, il faudra l'oublier. Votre vie n'est pas perdue. Ceci, c'est le coup de ciseau qui coupe le fil. Pour vous, j'aime mieux ça que l'incertitude. Au moins, vous savez à quoi vous en êtes. Devez-vous repasser à Portman Square? Oui. Eh bien, vous avez une bonne heure pour vous remettre à peu près d'aplomb. Je vais descendre mon lit pliant, vous vous allongerez. Un mot à Célise pour qu'elle fasse patienter les clientes s'il en vient. Je vais chercher les terres. Vous dormirez peut-être un peu, tâchez de croire que tout ça, c'est un mauvais rêve. » Doucement, ses mains légères, magnétiques, effleuraient le front et les tempes de Thérèse, se posaient sur ses paupières. L'affreux bruit de tambour s'éteignait dans les oreilles, les doigts crispés se détendaient. Thérèse, vaguement, souhaitait de s'endormir pour ne plus se réveiller.